8h46, je vous rappellerai ces précipitations prévues aujourd'hui. Quelques averses débutant mi-journée pour la région de Montréal. Un peu plus tôt en Outaouais également. On parle de 60%. Trois-Rivières, également quelques averses en mi-journée. Et pour Sherbrooke, on parle de risque d'averses seulement pour le sud du Québec à 30%. Alternance soleil-nuage. Chaud et humide aujourd'hui. Encore plus chaud et humide demain, où on parle seulement que de probabilité d'averse pour toutes les régions. Valérie Beaudoin est avec nous, chercheure associée à l'Observatoire sur les États-Unis de la chaire Raoul Dandurand. Bonjour.
Bonjour.
Parlons des funérailles de John McCain hier. Il y a eu des critiques même à peine voilées envers Donald Trump. Faut dire qu'il était persona non grata là-bas, là.
Tout à fait. Alors, le testament politique, c'est ce qu'on dit de John McCain qui est décédé il y a une semaine de cancer du cerveau. C'était ses funérailles qu'il avait planifiées d'avance. Et il a choisi vraiment les gens qui allaient parler, le fait que Donald Trump n'allait pas être là, pour vraiment laisser son héritage politique de dire « Je suis contre le président américain en ce moment, puis moi, je veux l'unification entre le Parti républicain et le Parti démocrate. » Alors, tout d'abord, il y avait Barack Obama qui a rendu un hommage, George W. Bush, qui était ses rivaux à John McCain à plusieurs moments dans sa vie.
Les deux, là, au sein de son propre parti et à la présidentielle également.
Exactement. Alors, il a perdu contre Barack Obama en 2008. Ça avait été une course quand même très difficile entre les deux hommes, mais qui sont restés proches. Il a même dit, Barack Obama, dans son discours, que John McCain, par moment, et ça, ça n'avait pas été publicisé, venait le voir dans le bureau ovale. Il discutait de la famille, il discutait de politique, et que vraiment, là, il n'y avait pas de filtre. On pouvait parler comme on voulait. Bon, Barack Obama, qui a dénoncé dans son discours la petite politique, les scandales fabriqués. Alors, quand on entend ces mots là, on pense tout de suite à Donald Trump et qui a dit que John McCain nous demandait d'être meilleur, d'être au-dessus de tout ça. George W. Bush qui lui a aussi rendu hommage en disant qu'il a fait de lui une personne meilleure, qu'il avait un code d'honneur et ça, c'est revenu beaucoup. Mais ce qui fait beaucoup jaser, c'est Meghan McCain, la fille de John McCain, qui est une animatrice de télévision américaine, une très bonne communicatrice et une fervente elle aussi. Opposante de Donald Trump. Et on va écouter un extrait qui circule beaucoup de son discours hier pour rendre hommage à son père. Et si on ne voit pas Donald Trump à travers ces mots-là, ça serait difficile de dire qu'on ne le voit pas.
He was a great man. We gather here to mourn the passing of American greatness. The real thing, not cheap rhetoric from men who will never come near the sacrifice he gave so willingly. Nor the opportunistic appropriation of those who live lives of comfort and privilege while he suffered and served.
Aïe, aïe.
Ouais. Alors, on fait référence à Make America Great Again, l'Amérique grandiose de Trump. Elle a dit aussi un autre moment.
Et juste traduire pour les gens qui n'ont peut-être pas compris ce qu'elle a dit. Elle a dit, on est ici pour commémorer la mémoire de quelqu'un qui a donné sa vie, pas pour de la cheap rhétorique. Simple, de bas étage, à vrai dire,
oui.
De gens qui ont donné leur vie, de vrais sacrifices, qui n'arrivent même pas à la cheville de ce que mon père a vécu et qui ont vécu dans le privilège et le luxe.
Exactement. Alors, des mots assez durs.
Et là, si on se souviendra, bon, il a fait référence la semaine passée, Valérie, c'est quand il y a eu la course républicaine où McCain s'en était pris à Trump et Trump avait répliqué en disant « Comment ça vous parlez d'un héros? Le gars a juste été fait prisonnier de toute façon. »
Ah oui, avec un sourire dans le visage en disant « Moi, mes vrais héros, c'est ceux qui ne se font pas capturer, qui se font pas faire prisonnier. » Et vraiment, il s'est jamais excusé de tout ça et c'est encore un sentiment pour la famille, ouais. McCain et John McCain jusqu'à sa mort. Il a vraiment eu cette rage envers Donald Trump. Et on a parlé aussi du slogan de campagne dans son discours « Rendre à l'Amérique sa grandeur, Make America Great Again. » Il a dit « L'Amérique, elle est grande. » Grandiose déjà, elle n'a pas besoin de l'être à nouveau. Et c'est ce que Donald Trump ne comprend peut-être pas. Si on revient rapidement à Barack Obama aussi, parce qu'on parle de ce qu'on s'est dit la semaine dernière sur John McCain, quel homme il était. Il avait défendu Barack Obama quand il y avait une femme qui l'avait dit « He's an Arab ». Et ouais. Il avait dit « Non, arrêtez, c'était un bon homme de famille, il ne faut pas parler contre lui, c'est juste quelqu'un avec qui j'ai des vues opposées ». Et il a adressé ça dans son discours hommage en disant il défendait tous les Américains, qui sont tous égaux, qui ont tous le droit à avoir une chance, parce que John McCain était pro-immigration, Donald Trump qui ne l'est pas. Alors, encore une fois, on a des vues qui sont opposées.
Pendant ce temps, le président, lui, en fonction, n'était pas là-bas et il en a profité pour parler de l'ALENA. Et il dit, on peut faire sans le Canada. C'était prévisible, cette sortie-là du président, honnêtement.
Ah, tout à fait. Alors, sur Twitter, il a parlé toute la semaine dernière et cette semaine du fait que le Canada c'était pas obligatoire de l'avoir dans l'accord de libre-échange nord-américain. On se rappelle qu'il a signé un accord bilatéral. En fait, qu'il s'est entendu sur un accord bilatéral avec le Mexique, à la grande surprise du Canada. Chrystia Freeland, qui avait jusqu'à vendredi, selon ses dires, pour négocier et pour faire partie de cet accord-là. Ça, c'est pas fait. Alors là, ce qu'on veut, c'est signer un accord bilatéral avec le Mexique en mettant toujours la pression sur le Canada en disant, ouais, nous, on va de l'avant avec le Congrès. Si vous voulez être avec nous, embarquez. Sinon, ben, on n'a pas besoin de vous. Mais ce qui est nouveau et qui est particulier, on sent la pression. Donald Trump la sent. C'est que non seulement on dit qu'on n'a pas besoin du Canada, on le menace, mais on menace le Congrès américain. Ça, il l'a fait sur Twitter en disant, si vous mettez des bâtons dans les roues et vous passez, vous ratifiez pas justement cet accord avec le Mexique, eh bien, je vais laisser tomber le Canada, je vais laisser tomber les négociations avec le Canada. Tout à fait. Alors, on menace son Congrès, qui est à majorité, je vous rappelle, républicaine, et on menace le Canada d'un autre côté. Alors, il faut dire qu'il sent la pression de s'entendre avec le Canada ou simplement d'être juste avec le Mexique.
Mais là, il faut dire, Valérie, il y a une trentaine d'États pour qui le principal partenaire commercial où on exporte le plus de matériel, c'est le Canada. Donc, il y a des élections de mi-mandat aussi. Donc, ça, il le sait, Donald Trump. Là, il parle à sa base en même temps de protection. Mais c'est très bien que dans certains de ces États-là où il y a l'appui, si demain matin il n'y a pas d'entente, ça va faire mal aussi à ces États-là qui sont limitrophes.
Et en ce moment, en politique américaine, le nerf de la guerre, c'est cette élection-là de mi-mandat. C'est ce que tous les candidats qui sont en réélection ou en élection pensent. Parce que, tu l'as dit Mathieu, plus de 30 États qui dépendent du Canada dans leur économie, il y en a beaucoup qui sont à majorité républicaine. Et les républicains sont pro-commerce avec le Canada en grande majorité. Alors comment ils peuvent se retourner et dire aux travailleurs de leur État qui dépendent du commerce au Canada, qui sont des électeurs, ben nous on va suivre le président Trump, on va voter pour cet accord-là en laissant de côté le Canada, mais on vous laisse tomber. Ils pensent, eux, à leur réélection. Et Donald Trump, ce qu'ils pensent aussi, ce qu'on peut croire, parce qu'on n'est pas bien sûr dans sa tête, là, mais ce que les analystes pensent, c'est que lui, il a fait cette promesse-là électorale de déchirer l'accord de l'ALENA. Et il veut y tenir. Il trouve que c'est une bonne façon de négocier avec le Canada en lui disant, on n'a pas besoin de vous. Et d'ailleurs, il y a des, je sais pas s'il y en a qui ont vu le Toronto Star qui a sorti une bombe quand même en disant que Donald Trump, bon, il disait à mots à peine couverts et off the record, comme on dit, que le Canada, il n'en avait pas besoin et que vraiment, il les menaçait, qu'il était très, très fort envers eux et qu'il n'y avait pas le choix de plier, d'être à genoux devant lui et de dire oui à ses demandes, sinon le Canada allait se retirer.
Oui, ça va être à voir.
Négociation, hein?
Écoute, on verra bien. Je pense que Raymond Bachand est celui qui a peut-être le mieux résumé le tout. Il faut y donner la perception qu'il a tout gagné puis qu'il nous a battus dans le coin. Mais dans les faits, est-ce que ce sera ça? Ce sera dans les détails qu'on le saura, évidemment.
Tout à fait.
Bien entendu. Mais c'est sûr que s'il n'y avait pas d'entente signée du tout avec les États-Unis, c'est sûr que le Canada est perdant. Ça, tout à fait.
Le Canada est encore plus perdant que les États-Unis là-dedans.
Autre élément. Et là, quand tu dis que c'est important, les élections de mi-mandat, là, moi, honnêtement, j'ai de la misère à croire à ça. Que les Républicains se feraient battre par les démocrates au Texas.
Oui. Alors,
mais semble-t-il, les sondages disent que ça se pourrait, mais...
Oui, on vient de se réveiller du côté du camp républicain parce que Ted Cruz, qu'on connaît bien, qui est un adversaire de Donald Trump pendant la campagne présidentielle américaine, là s'est dit, mon siège est peut-être en danger par un démocrate, et non seulement un démocrate, mais un progressiste aussi, qui est très libéral dans ses vues, et lui, il pourrait rafler le siège au Sénat de Ted Cruz. Et dans les derniers sondages, ce gars-là, c'est Beto O'Rourke. Vous l'avez peut-être vu parce que les images de sa position sur les joueurs américains de football qui mettent le genou par terre, ça le fait le tour des réseaux sociaux. Parce que lorsqu'on lui a posé la question, est-ce que tu es d'accord avec ça, avec ce côté-là non patriotique qu'on dit de se mettre le genou par terre, il a dit non, au contraire, je peux pas penser à un geste qui est plus américain que ça, parce que c'est le droit de la liberté d'expression, le droit de protester, et lui, il trouvait ça très, très beau. Et là, les républicains, ça fait 6 ans.
Un démocrate texan, là, sais-tu, c'est plus conservateur qu'un républicain de New York, mettons là.
Mais quand même, il y a des réformes au niveau des armes à feu.
OK.
Et donc ça fait partie de ses réformes. J'ai regardé sa plateforme. C'est assez progressif, je devrais dire. C'est assez audacieux aussi de penser qu'il pourrait être là. Mais il faut pas oublier qu'il y a certaines régions du Texas qui sont quand même très démocrates, très plus libérales. Il y a aussi beaucoup d'immigration de latino-américains, qui sont pas les amis de Donald Trump actuellement. Et ça pourrait vraiment l'aider. Dans les derniers sondages, j'en ai vu un là, récemment. 39 pour Ted Cruz, 38 pour son plus proche rival. Et les points, le pointage, ça va entre 1 point de différence et 8 points, quand normalement, ça devrait être autour de 20 points de différence. Et au niveau du financement, les démocrates qui mettent tout leur argent pour ce candidat-là, démocrate, justement pour qu'il puisse rafler le siège de Ted Cruz. Alors, on tente de se réveiller, de faire quelque chose pour garder notre siège.
Mais là, Ted Cruz a été obligé de se boucher le nez puis demander de l'aide du président, parce qu'il faut dire que depuis, même il a fait des appels pour l'appui à Donald Trump, mais s'il y en a un qui s'est fait insulter pour rien qu'un peu par le président actuel, c'est bien Ted Cruz.
Lying Ted, entre autres, parmi les insultes. Et là, Trump qui a dit « je vais trouver le plus gros des stades, le plus great, pour avoir justement un rallye pour mon ami Ted Cruz, pour l'aider à devenir... »
Son ami?
Oui, tout à fait. Dans les circonstances, je crois que l'establishment républicain lui a dit « là, il faut vraiment faire la paix parce qu'on a besoin de ce siège-là et ça irait pas très, très bien si on perdait ce siège qu'on a depuis plus d'un quart de siècle. »
C'est pas Ted Cruz dont Donald Trump avait accusé le père d'avoir participé à l'assassinat de Kennedy?
Oui, il a accusé beaucoup de choses, son ami Ted Cruz.
Aïe, aïe, aïe. Valérie Beaudoin, merci beaucoup.
Merci.
Salut bien, à la semaine prochaine. Valérie Beaudoin, chercheure associée à l'Observatoire des États-Unis de la chaire Raoul Dandurand. Connais-tu l'automne de l'horreur? De la
non.
Terreur?
Je vais être à l'écoute.
Christian Page s'en vient avec ça. C'est pas lui, la terreur, là, évidemment, mais on va parler de l'automne de la terreur dans quelques minutes. Événements qui se sont passés il y a 130 ans. À Londres. Mystérieux, n'est-ce pas?